décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. Dans Décryptage ce soir, l'Amérique de Trump dans la poudrière proche-orientale. Il s'était fait le chantre de la paix et pourtant, 2 mois après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump doit faire face à la dangereuse escalade des tensions à Gaza et en mer Rouge. Après que son allié israélien a fait voler en éclats la trêve à Gaza, avec des frappes qui ont fait déjà des centaines de morts dans l'enclave palestinienne, et en promettant au Hamas une pluie de bombes pour accompagner les négociations jusqu'à la libération des otages. De quoi laisser craindre que le conflit ne se propage désormais à toute la région, alors que les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, promettent de leur côté de redoubler leurs attaques en soutien au peuple palestinien. Après avoir déjà revendiqué en quelques jours 3 attaques contre des navires de guerre américains, conduisant Washington à bombarder le Yémen et à tenir désormais Téhéran pour responsable des attaques houthis. L'Iran va-t-elle allumer la mèche de la poudrière ? L'embrasement au Proche-Orient pourra-t-il être évité ? On fait le point ce soir avec nos invités. À mes côtés, dans ce studio, notre confrère Quentin Muller. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant, spécialiste de la péninsule arabique et auteur de L'Arbre et la Tempête, Socotra, l'île oubliée, à paraître prochainement, le mois prochain aux éditions Marchiali. Également avec nous, Adeline Mohamedi. Bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur en géopolitique, enseignant à Paris 3 et à l'IRIS, associé aux séries Sciences Po. Bienvenue à vous deux et merci de nous rejoindre sur RFI. Pour commencer, Quentin Muller, qui sont ces rebelles houthis yéménites qui contrôlent désormais en grande partie le pays et dont les attaques ont poussé Donald Trump à lancer, on l'a dit, son premier acte de guerre en bombardant copieusement la capitale, Sanaa?
Oui, alors les Houthis, il faut revenir à leur nom. Pourquoi on les appelle les Houthis? Les Houthis ont pris le nom de leur fondateur, Hussein Badreddine al-Houthi, qui était un ancien député du parti Al-Haq, La Vérité. C'est un homme qui vient de Saada, donc de l'extrême nord du Yémen. Et après des études de religieuses en Iran, à Qom et aussi au Soudan, il revient donc au Yémen en 1999. Il n'est plus député et il s'inscrit un peu moins dans la République yéménite, puisqu'il tient des discours très populistes où il s'attaque aux alliés du président de l'époque, Ali Abdallah Saleh, donc les Américains, en disant voilà, Ali Abdallah Saleh, notre président, reçoit des millions pour lutter contre le terrorisme d'Al-Qaïda qui sévit au Yémen, et donc on s'allie au grand Satan, et puis il s'attaque aussi en Israël, en associant évidemment les États-Unis et Israël comme étant des alliés du Yémen, alors que bon, dans les faits, c'est pas vrai, c'était plus les Américains qui aidaient le gouvernement Saleh. Donc ces discours très populistes et surtout qui marquent une époque, c'est-à-dire on est après l'attentat du 11 septembre, il y a un surinvestissement américain dans la zone, donc un interventionnisme, un impérialisme américain qui tue énormément de musulmans, en Irak notamment. Et donc il est dans cette mouvance-là. Ça déplaît totalement à Washington et donc Ali Abdallah Saleh se fait remonter les bretelles par l'ambassadeur de l'époque américain à Sanaa, qui lui dit écoute, il faut neutraliser Hussein Badreddine al-Houthi. Si tu le fais pas, nous on va réduire la voilure sur l'aide américaine, quoi. Et donc Ali Abdallah Saleh, au lieu de ouvrir un dialogue comme le voulait Hussein Badreddine al-Houthi et ses quelques partisans, il y a la répression, il lance une répression et une violence inouïe contre ses partisans. Et cette violence ne se résume plus seulement au petit groupe qui suit Hussein Badreddine al-Houthi, mais s'étend aux Zaïdites, puisque le président lui-même est sunnite. Et donc, il y a des gens qui, de base, des Zaïdites qui ne suivaient pas du tout le discours de Hussein Badreddine al-Houthi, qui ont été visés par cette répression aveugle et qui ont petit à petit rejoint le mouvement. Et ce mouvement a grandi, grossi. Il y a eu plusieurs guerres du début des années 2000 jusqu'au printemps arabe et ensuite le printemps arabe survient. Le gouvernement central yéménite est très fragilisé par ces protestations et les Houthis en profitent pour faire un coup d'État.
Et ces rebelles Houthis, après 10 ans de guerre civile, contrôlent désormais une grande partie du pays, Adeline Mohammadi, et ils se posent en défense, en tout cas en solidarité du peuple palestinien.
Oui, tout à fait. Alors, juste pour compléter ce qui a été dit, ironiquement, c'est l'alliance de circonstances entre l'ancien président Ali Abdallah Saleh et les Houthis qui ont permis à ces derniers de prendre Sanaa en 2014, hein, ce qui a ensuite donné lieu à la fameuse grande coalition menée par l'Arabie Saoudite en 2015, censée les déloger de Sanaa, mais qui n'a pas apporté les résultats escomptés. Alors, bien sûr, on a tendance à exagérer le lien entre les Houthis et leurs alliés iraniens dans le cadre finalement du conflit actuel, mais on oublie tout simplement que les Houthis en fait sont profondément attachés à la cause palestinienne comme beaucoup de mouvements arabes, et il suffit de lire leur drapeau pour savoir et connaître leur hostilité à l'égard d'Israël. Donc ils n'ont pas besoin d'un parrain régional pour justement exprimer cette solidarité. Mais ils l'ont exprimé dès le lendemain d'ailleurs,
pour autant,
du 7 octobre.
Ils sont armés et financés en grande partie par l'Iran. Ça, c'est indéniable ou pas ?
C'est indéniable. Ils ont bénéficié du soutien de l'Iran. J'insistais sur ce point tout à l'heure parce que l'alliance de circonstances avec l'ancien président déchu Ali Abdallah Saleh leur a permis d'arriver à Sanaa, de prendre Sanaa, parce que ils ont bénéficié des moyens de l'ancienne armée yéménite. Et j'insiste sur ce point parce que ça permet aussi de compléter le soutien iranien. C'est-à-dire qu'il y a aussi des éléments endogènes qui les ont renforcés. Bien sûr, il y a le soutien de l'Iran, c'est indéniable. Les Houthis se sont inscrits dans ce qu'on appelait l'axe de la résistance, hein, mené en partie par Téhéran. Mais et d'abord, il y a aussi des moyens internes. Hein. Les Houthis ont aussi bénéficié de moyens internes parce que, comme vous l'avez rappelé, contrôler aujourd'hui une bonne partie du territoire yéménite et presque la totalité de ce qu'on appelait le Yémen du Nord, ça permet quand même aussi d'engranger quelques moyens. J'ajouterais que, bien sûr, d'un côté, vous avez l'Iran affaibli par l'effondrement dans ce qu'on appelait l'axe de la résistance, notamment avec l'effondrement du régime de Bachar al-Assad, avec l'affaiblissement du Hezbollah au Liban.
Et du Hamas à Gaza.
Et du Hamas à Gaza, même si le Hamas à Gaza n'a pas toujours fait partie de cet axe. Mais bien sûr, on a ça. D'un côté, donc, par conséquent, on peut penser que l'Iran a besoin des Houthis parce que finalement, c'est ce qui reste de cet axe. D'autant que, contrairement aux autres, les Houthis sont au pouvoir.
Autrement dit, est-ce que les rebelles Houthis sont devenus le fer de lance de cet axe de la résistance ?
C'est ça, c'est que j'y venais. D'un côté, vous avez ça, mais de l'autre, vous avez aussi un certain niveau d'autonomie qu'on a tendance parfois à minimiser. C'est que les Houthis ne sont pas les pantins de Téhéran. Hein, les Houthis, d'abord, on exagère toujours le lien entre les deux en insistant sur le caractère chiite des Houthis. D'abord, les Houthis sont des zaïdites, qui est une certaine branche du chiisme, certes, mais c'est ce qui se fait de plus proche du sunnisme, en réalité, dans le monde arabe. Au Yémen, on ne parle pas beaucoup de contradictions entre sunnisme et chiisme, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et les Houthis, en fait, Quentin l'a rappelé en rappelant l'histoire des Houthis, de ce mouvement, mais au-delà de ça, il y a aussi un mouvement qui a une haute opinion de lui-même, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se réclament d'un héritage du prophète. Hein, c'est un mouvement qui se revendique aussi indirectement de l'imama, qui contrôlait le Yémen avant la République dans les années 60. Donc les Houthis ne se résument pas à un proxy de Téhéran, ils ont une certaine marge de manœuvre et une certaine autonomie, et comme je le disais, une haute idée d'eux-mêmes. Abdelmalek Houthi, leur chef, n'accepterait pas l'idée d'être l'obligé d'un ayatollah iranien.
Et ils sont pourtant, et ça vous l'avez dit, hein, même s'ils ne sont pas entre guillemets les pantins de Téhéran, ils font partie de cet axe de la résistance, ils en sont sans doute aujourd'hui le fer de lance en raison de l'affaiblissement du Hezbollah et du Hamas. L'objectif de cet acte de la résistance, c'est déstabiliser les monarchies sunnites et combattre Israël et leurs alliés américains. C'est pour ça qu'ils ont attaqué des navires américains ces derniers jours au large des côtes yéménites.
Oui, en fait, l'axe de la résistance en est toujours pris aux intérêts occidentaux, mais davantage américains, évidemment, au Moyen-Orient, et puis Enfin, c'est dans leur ADN de s'attaquer à l'impérialisme occidental. C'est vraiment, c'est dans leur identité, si je puis dire. Et puis Israël, enfin, ils associent Israël à cet impérialisme occidental, évidemment. Donc, ces attaques en mer Rouge des Houthis, au départ, moi, j'ai cru que c'était pour... Alors, évidemment, il y a une solidarité énorme yéménite, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit le Yémen du Sud, les Yémen du Nord, les yéménites sont derrière la cause palestinienne. Donc, c'est un engagement sincère. Mais il y a aussi, évidemment, une dimension stratégique, c'est-à-dire que s'attaquer à l'économie mondiale en ralentissant très fortement le trafic en mer Rouge pendant plus d'une année, c'est aussi se faire connaître sur la scène internationale et s'ériger en défenseur de la cause palestinienne. Or, on a bien vu qu'il n'y a aucun État, y compris l'Iran, qui s'est attaqué directement à Israël. Or, les Houthis, c'est
l'Iran
un...
L'Iran a tiré sur Israël il y a quelques mois pour la première fois.
Oui, oui, oui. Et c'est surtout... Mais c'était en réponse. Donc, ce n'était pas une attaque. Les Houthis, c'est un proto... Enfin, les Houthis tiennent le nord du Yémen, donc c'est 30% du territoire, mais c'est 70% de la population. C'est un proto-État qui veut se faire reconnaître. Et moi, je pensais que ces attaques-là, c'était pour donner... Enfin, mettre la pression sur la communauté internationale pour créer un Yémen du Nord indépendant sous gouvernance Houthi. Or, ça n'a pas été le cas jusque-là, puisque ils sont allés jusqu'à des traités, des discussions de paix avec l'Arabie Saoudite qui n'ont pas abouti. Et je pense pas qu'on ait aujourd'hui, de la part de la communauté internationale, une envie de reconnaître un Yémen du Nord indépendant sous administration Houthi. Mais en faisant ça, ils ont commencé à exister sur la scène moyen-orientale. Or, ils étaient très méconnus des peuples arabes. On pouvait parler un Égyptien, ils connaissaient pas les Houthis, un Jordanien. Là, je veux dire, tout le monde arabe soutient l'action des Houthis contre Israël. Et surtout, en ce moment, après les bombardements américains, ils soutiennent les Houthis contre les Américains. Donc, ils ont gagné en popularité et en dimension non plus locale, mais internationale.
Donc,
et je pense que c'était le but.
Le président Trump tient, lui, désormais l'Iran pour responsable des attaques houthis. Pourquoi cette escalade maintenant?
Je pense que Trump met une pression maximale sur Téhéran pour que, en croyant peut-être que Téhéran tient les rebelles houthis, moi je suis tout à fait d'accord avec mon collègue en face, je ne crois pas que Téhéran puisse donner des ordres à Abdelmalek al-Houthi. Et alors, ils ont des intérêts convergents, ça c'est certain.
Très convergents.
Ils ont, les houthis ont toujours été marginaux dans cet axe de la résistance. Et puis pour avoir parlé avec un cadre houthi, lui il m'a toujours dit qu'ils avaient une liberté de mouvement.
Dit également aujourd'hui Téhéran, hein, ils ont leur liberté de mouvement.
Et contrairement au régime de Bachar Assad qui tenait, grâce à l'aide iranienne, le Hezbollah qui a été une création, si je puis dire, iranienne, les Houthis, vraiment, c'est un phénomène yéméno-yéménite de base. Et la vraie relation militaire entre les Houthis et l'Iran ne date que de l'entrée en guerre réelle de l'Arabie Saoudite dans ce conflit en 2015 et pas avant. Avant, c'était marginal. Donc, et puis de toute façon, c'est mal connaître aussi ce peuple qui est que sont les Yéménites du Nord, qui ne reçoivent pas d'ordre d'un pays étranger et ne sont pas inféodés à un pays étranger. Donc je ne crois pas que ça ait, si je puis dire, des résultats de mettre une pression maximale sur Téhéran. Après, les Houthis n'iront pas non plus à un stade où ils mettront en péril le régime iranien. Je pense qu'ils ont tout intérêt à garder cet allié à côté d'eux.
Jusqu'où peut aller l'escalade, Adlan Mohammadi, après qu'Israël ait donc rompu la trêve à Gaza? Est-ce que les choses peuvent s'envenimer sérieusement? Les Houthis annoncent de nouvelles représailles?
Oui, il y a un certain aventurisme chez les Houthis. L'an dernier, ils s'attaquaient à tous les navires qu'ils considéraient comme étant liés à Israël et ils pourraient bien sûr le refaire. Mais moi, je pense que ça a aussi tendance à embarrasser les Iraniens. C'est-à-dire que là encore, c'est-à-dire que les Iraniens ne sont pas forcément à l'aise avec cette capacité des Houthis à agir par eux-mêmes. Donc,
les attaques contre les navires militaires américains, ça embarrasserait Téhéran ?
Ça peut, oui, parce qu'on n'a pas, a priori, rien n'indique que les Iraniens soient enthousiasmés par cela. Bien sûr, on a tendance à penser que tout de suite, si les Houthis agissent, c'est que l'Iran demande à ce que les Houthis agissent. Mais ça ne marche pas comme ça. Même le Hezbollah, en réalité, au Liban, n'était pas aux ordres. Initialement, en fait, les Houthis, quand ils ont commencé à s'attaquer, l'idée, et c'était l'idée de tous les acteurs non étatiques, entre guillemets, de l'axe de la résistance de l'époque, c'était de soulager le front gazaoui. C'était de maximiser la pression pour obliger les Israéliens, en multipliant les fronts, obliger les Israéliens à accepter un cessez-le-feu. C'était ça l'idée. Alors aujourd'hui, avec l'escalade à Gaza, bien sûr, les Houthis peuvent considérer que la guerre va reprendre, ils vont encore recibler le territoire israélien comme ils le faisaient, bien sûr avec peu de résultats puisqu'il y a la protection anti-aérienne israélienne, mais ils peuvent continuer à le faire. Et cette pression de Trump, elle est intéressante parce que quand il dit « je vais considérer que chaque attaque Houthi est une attaque iranienne », c'est quand même une manière, bien sûr, de responsabiliser l'Iran indépendamment de la réalité de l'implication iranienne. Ça veut dire que si demain les Houthis attaquent, il va considérer que l'Iran attaque. Mais rien ne prouve que l'Iran est derrière. Et ça, c'est un point intéressant. Ça veut dire qu'ils peuvent, bien sûr, vouloir s'attaquer directement aux Iraniens en prenant cela comme prétexte.
Ça peut être un prétexte pour attaquer l'Iran directement,
voilà.
Pour bazarder l'accord sur le nucléaire,
voilà.
Je veux dire, et considérer que de facto, on ne pourra rien en tirer de cet Iran et que ça restera un ennemi pour aujourd'hui comme pour demain.
Justement, Quentin Muller, on se demandait pourquoi cette escalade maintenant, est-ce que c'est en rapport avec la lettre, somme toute assez comminatoire, que le président Trump a envoyée à Téhéran pour négocier un accord en encadrant les activités nucléaires, mais tout en renforçant les sanctions et en menaçant déjà la menace d'une action militaire.
Oui, bon, bah, Trump, on commence à connaître le personnage et l'animal. C'est-à-dire que quand il veut entrer en négociation, il met une pression maximale sur la partie adverse en faisant monter les enchères et donc et en laissant peu d'options à la partie adverse pour un refus ou un retrait d'un potentiel accord. Donc là, les bijoux de famille de Téhéran, ce sont les outils, c'est ce qui leur reste comme alliés. Il reste encore un peu le Hezbollah, il ne faut pas les sous-estimer malgré le fait qu'ils aient perdu beaucoup d'hommes, mais c'est ça, hein. Bon, après c'est difficile de savoir ce qu'il a dans la tête ce garçon, mais
Bon, quand il dit, Adeline Mohamedi, ce soir, hein, il y a quelques minutes, les rebelles houthis seront complètement anéantis, on peut s'attendre à un durcissement de la passe d'armes entre rebelles yéménites et américains dans cette partie du golfe d'Aden. Ça a été le premier acte de guerre du président américain depuis son nouveau mandat.
Oui, en fait, il y a deux choses concomitantes que vous avez évoquées. Il y a d'un côté le front gazaoui, puisqu'il a accordé une espèce de blanc-seing aux Israéliens, parce que c'est quand même la principale problématique du moment, c'est que les Israéliens aujourd'hui peuvent se permettre de tuer 300, 400 personnes impunément, parce que ils bénéficient de ce blanc-seing américain. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on n'a pas tout de suite compris avec Donald Trump, c'est que Donald Trump, en fait, c'est le droit du plus fort de façon cohérente. C'est-à-dire qu'il est avec les Israéliens comme il est avec les Russes. Il considère que les Israéliens sont les plus forts, il est avec eux, il les soutient. Mais le grand absent quand il s'agit du Yémen, et dont on n'a pas encore parlé, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que le silence saoudien, il est déjà révélateur. Puisque les Saoudiens...
Révélateur de quoi ?
Révélateur de la prudence saoudienne, puisque les Saoudiens, depuis leur défaite, justement, face aux Houthis sur le sol yéménite, ne veulent pas reprendre cette guerre. Quand Biden déjà avait mis en place cette coalition de la mer Rouge, justement, pour lutter contre les Houthis, les Saoudiens n'y étaient pas. Donc là, bien sûr, les Saoudiens ont peur d'éventuelles représailles Houthis sur leur sol.
Merci Adeline Mohamedi, chercheur en géopolitique, enseignant à Paris 3, à l'IRIS, associé aux séries Sciences Po. Et je note que vous organisez un colloque sur le Yémen à Sciences Po, ça sera le 26 mars prochain. Merci également à Quentin Muller, journaliste indépendant, spécialiste de la péninsule arabique et auteur, je le rappelle, de L'Arbre et la Tempête. Socotra, l'île oubliée, apparaît aux éditions Martial Hill le mois prochain. Merci à tous les deux d'être venus sur RFI. Merci à Sigrid Azerwal qui m'a aidé à préparer cette émission et à la réalisation ce soir, Fabrice Violet. Merci.